En Italie, il y a eu des interdictions de territoire sur le territoire de Ventimille. Donc des gens qui ne peuvent plus agir, en fait, qui étaient acteurs. En France, ça se fait aussi. Encore aujourd'hui, j'ai des amis qui ont été arrêtés et qui sont interdits d'être dans le sud-est de la France. Donc c'est des manières de faire diminuer les mouvements. Et dans ces zones-là, ça a été hyper touché par la répression. La répression, ouais, voilà, des États, quoi. Ça a cassé les mouvements, ça a rendu voilà, l'action difficile, voire illégale en fait. Et du coup, ça fait que là, concrètement à 26 000, ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est que du coup, il y a très peu de présence de militants, très peu de présence, il n'y a pas de présence d'ONG, à part la Croix-Rouge, mais qui sont collaborateurs, puisqu'ils prennent l'asile, enfin ils obligent les gens à demander l'asile pour pouvoir bénéficier du camp, quoi. Donc, à part ça, il y a un groupe de copains qui sont installés à un local et qui arrivent à le louer et qui le louent. Donc ils sont pas dans un mode squat illégal. Je pense que c'est la seule manière qu'ils avaient pour encore exister vu l'état de la répression. Et voilà, donc je sais pas, la situation d'Ventimille, elle est un peu. Elle parle aussi de bien voir aussi qu'ils sont capables de couper une frontière, qu'ils sont capables de casser les mouvements, vraiment diminuer le nombre de gens qui s'y impliquent. C'est questionnant, et questionnant pour la suite, étant donné que sans ces pôles-là, en fait, enfin sans ces endroits-là, en fait, on n'accueille pas.
Depuis plusieurs mois, la solidarité s'organise dans les Hautes-Alpes et jusque dans le Haut-Diois pour prêter main forte à de nombreuses personnes qui tentent de passer la frontière et qui, pour certaines, arrivent dans nos départements. Après la surmilitarisation qui s'est opérée plus dans le sud, aux frontières de la Roya et de Ventimille notamment, qui deviennent maintenant infranchissables, la réalité continue d'exister et ne fait qu'être déplacée. L'État français met en place des stratégies offensives et inhumaines, sous couvert de lutte contre le terrorisme, alors que face à nous, nous trouvons des centaines de migrants en pantoufles, frigorifiés, affamés, fatigués après un long voyage périlleux dont certains ne ressortent pas vivants. S'ils arrivent ici, s'ils quittent leur pays et leur famille, s'ils se lancent dans ce voyage dont ils connaissent les dangers, c'est bien qu'ils ne peuvent pas faire autrement, et que la moindre des choses est de leur donner une nouvelle chance. Mais ce n'est apparemment pas ce que souhaite notre beau pays, qui prône pourtant la liberté, l'égalité et la fraternité. Depuis plusieurs années, l'État français pourchasse légalement des centaines de personnes, et continue de mettre en danger la vie de celles-ci en prétextant la sécurité de la nation. Sans en faire des caisses, ce que nous voyons ressemble à une déportation. De Briançon à Saillant, en passant par Vennes, Gap ou Vercheny, les réseaux se mobilisent pour prendre en charge la situation et pallier au désengagement de l'État. Des maisons sont ouvertes, la maison Cézanne à Gap, le CHUM, centre d'hébergement d'urgence pour mineurs, à Vennes, chez Marcel et la CRS à Briançon, et bientôt un lieu d'accueil collectif à Vercheny. Des collectes régulières de vêtements et de nourriture s'organisent. Une cantine qui nourrit jusqu'à 70 personnes chaque semaine devant la préfecture de Gap, où les jeunes doivent pointer pour recevoir l'aumône de l'État. Également de nombreux accueils chez les habitants des différentes villes et villages, qui permettent aux jeunes mineurs et aux majeurs de trouver refuge, un toit, une famille, du réconfort. Un accompagnement médical qui peine à être assez complet pour traiter tous les traumatismes physiques et psychologiques qu'ont pu subir les camarades tout au long de leur voyage, ce jusqu'au périlleux col de l'Échelle qui mène à Briançon, haut de 1800 mètres, couvert de neige actuellement, et qui depuis quelques semaines est devenu le terrain de jeu des gendarmes et des militaires qui sillonnent les routes, armés de FAMAS, de jumelles thermiques et de chiens. Et une action non négligeable au milieu de toutes ces initiatives, informer, parler de ce qui se passe, faire témoigner les camarades. C'est à Minglon le 18 novembre dernier qu'a eu lieu une soirée de soutien pour récolter de l'argent pour la lutte, que tous les témoignages qui vont suivre ont été enregistrés. Bientôt, un infotour sera organisé dans la vallée du Rhône pour continuer à informer, à dire, à tisser du lien entre les réseaux. Car si le gouvernement souhaite invisibiliser cette question des migrations, il est urgent de dire non, de ne pas plier face au racisme d'État qui ne fait que s'accentuer. Informons-nous, racontons, agissons. Dans les Hautes-Alpes et dans la Drôme, nous sommes directement concernés.
Yeah. C'est Ibrahim.
Mon prénom c'est Jean-François.
Alcini.
Lucie. Camille.
Madidi.
Mathilde.
Léa.
Aurélien.
Maria.
Aboubacar.
Louane.
Charlotte.
Younes. Julien.
Eva.
Mohamed.
Nina.
Ibrahim.
Lucie.
Aurélien.
Mathilde.
Julien.
Aboubacar.
Mode.
Madidi.
Avant que je me suis vraiment lancée dans cette dans ce combat des droits de l'homme. Parce que j'ai beaucoup de temps. Là, j'ai décidé de ne pas travailler exprès pour m'investir à fond. Et donc, un petit peu, moi, je me suis lancée là-dedans parce qu'il y a des droits qui ne sont absolument pas respectés. Ce sont des personnes donc, qui arrivent à la frontière. Donc, nous, on est à Briançon, donc on est à la frontière italienne. Donc, il y a une militarisation qui s'est faite, qui s'est vraiment accentuée là, depuis cet été. On a observé différentes forces de l'ordre, donc pour faire un petit point là-dessus, on a les gendarmes donc, qui tournent régulièrement, et on a l'armée, les sentinelles qui sont là, qui sont revenus, qui partent et souvent qui reviennent. Et de temps en temps, la police nationale, mais qui est plus présente sur Briançon, quand ils arrivent sur Briançon directement depuis le col de l'échelle. Donc ce sont des personnes, donc ces personnes-là donc, tournent dans le col en voiture, donc elles roulent. Ou bien elles sont postées en barrage la nuit et le jour. Donc il faut savoir que, par exemple, la nuit, on a les sentinelles qui sont avec les jumelles thermiques, là, jusqu'à il y a deux soirs, donc on était encore au col de l'échelle, donc c'est ce qui s'est passé. En fait, ils mettent une jumelle thermique qui débouche sur tous les débuts de sentier depuis Bardonecchia, depuis la frontière. Et donc en fait, ils savent combien de personnes passent à peu près, et du coup, ils les attendent juste en haut d'un virage, en fait, avant les tunnels. Pour en fait les empêcher de passer, les empêcher de continuer. Et donc c'est concrètement une vraie chasse à l'homme. Donc à partir du moment où ils dépassent la frontière, donc ils sont pourchassés. Notamment, ils mettent un peu des stratégies en place. Ils s'amusent la nuit à se mettre en barrage, à éteindre les phares de voie des voitures. Donc les migrants se disent qu'il n'y a personne sur la route. Et du coup, c'est comme ça qu'ils les attrapent. Donc ils continuent sur la route et en passant devant eux, ils les attrapent et ils les remettent à la frontière avec un papier refus d'entrée. Qui est précoché en disant que le migrant souhaite revenir le plus vite possible en Italie. Donc tout est précoché, il faut le savoir. C'est important, c'est un détail super important. Donc voilà, pour ce qui est de la militarisation, donc ils sont H24 là-bas. Et ils les attrapent, que ce soit de la frontière franco-italienne jusqu'à Briançon. À Briançon, c'est un réel problème également. Ils se font tous piocher petit à petit s'ils se baladent dans la ville à Briançon. Sachant qu'ils arrivent le matin en général vers 6-7 heures, alors des fois le soir, des fois l'après-midi, ça dépend. Mais de toute façon, si la police nationale débarque et qu'elle voit deux personnes de couleur noire, parce que c'est vraiment ça qui les intéresse, du coup, ils les attrapent et les envoient, appellent la PAF de Montgenèvre, la police des frontières, et donc c'est eux qui les ramènent en Italie. Donc nous, après, par contre, on fait une prévention par rapport à ça. Donc on leur explique que quand ils arrivent à la maison d'accueil d'urgence à Briançon, il faut être prudent et que s'ils se baladent dans la ville, ils peuvent être piochés par la police nationale à tout moment et renvoyés en Italie. Ça, c'est déjà produit. On a déjà rencontré des jeunes qui étaient à Bardonecchia qui se sont fait prendre à Briançon en arrivant à la maison CRS ou en allant se balader la journée, qui du coup rappellent derrière, on s'est fait prendre par la police, on est en Italie, quoi.
Bonsoir. Moi, je vais pas prendre la parole longtemps parce que je pense qu'il y a des copains et des copines qui ont bien d'autres témoignages à porter. En fait, ce que je vois depuis quelques mois à Briançon et en passant aussi par Gap et en rencontrant les différentes facettes de ce à quoi ce que je peux voir, c'est qu'il y a une mise à l'écart, en fait, vraiment une invisibilité faite à toutes les personnes qui veulent rentrer en France, qui veulent avoir le droit, en fait, d'être protégées comme la France le prétend, puisqu'on est signataire de conventions pour le droit des réfugiés, puisqu'on est signataire de conventions pour la protection de l'enfance, et que ça fait partie des fiertés d'un pays qui se dit démocratique, etc., au sein de l'Union européenne. Et en fait, il y a une invisibilité complète qui est fabriquée avec des pièges administratifs, avec des pièges policiers, et une démesure totale, en fait, des moyens de l'État, entre d'un côté des dispositifs militaires qui coûtent des millions, des millions, des millions, parce qu'il faut payer des heures, il faut payer des matériels, il faut payer des heures sup, il faut payer tout ça. Il faut faire venir des gens de partout en France, voilà, etc. Pour faire la chasse à des jeunes, ou moins jeunes, mais juste pour faire la chasse à des gens qui... Il y a des images, des scènes de guerre, en fait, c'est hallucinant. Tu vas dans un village de 20 habitants au milieu des Hautes-Alpes, voilà, 20 bornes de Briançon, et là, tu te retrouves à 2h30 du matin avec 6 gars qui portent des FAMAS, avec 3 jeeps qui font le tour de tous les sentiers de col, avec 2 équipes canines... etc. Et en fait, dans la nuit, il y a peut-être 10 mineurs ou jeunes majeurs qui vont arriver à pied, en fait. Il y en a qui sont en pantoufles, il y en a qui sont en basket, il y en a qui sont en suite. Il fait moins 5. Et c'est ça, en fait, l'État français. Donc, dans le même temps, les mineurs sont déminorisés dans le département des Hautes-Alpes cette année 2017 à peut-être 80 ou 90%. C'est-à-dire que, pour tout un tas de prétextes bidons, on n'étudie pas leur parcours de vie réel, mais on assemble quelques éléments de leur récit, on le reconstitue pour dire non, tu dis que t'as 15 ans et demi, t'es majeur. Tu dis que t'as 16 ans, t'es majeur. Il y a une casse du droit des mineurs qui est opérée cette année par le département des Hautes-Alpes. C'est vraiment très, très fou. Et dans le même temps, il y a tout ce processus de Dublin qui renvoie toutes les personnes qui veulent demander l'asile et qui ont malheureusement n'ont pas eu le choix, pris les empreintes à la sortie du bateau une première fois, souvent de manière forcée, une deuxième fois dans les camps de transit en Italie, qui se retrouvent à ne pas pouvoir faire effectivement leur demande d'asile en France, donc à avoir leur récit de vie, les raisons pour lesquelles tu quittes ton pays, qui soient vraiment entendues, mais ils sont renvoyés vers l'Italie, c'est ça la procédure, donc en fait aussi une casse du droit d'asile par les autorités françaises dans le cadre de la réglementation Dublin, etc., etc. Et une invisibilité avec des parcours administratifs en fait qui enferment les personnes dans des centres, loin des yeux, loin du cœur. Les mineurs, c'est dans des centres qui sont à 20 bornes de tout, avec petit à petit un tarif des prises en charge qui est de plus en plus bas, parce qu'il y a une mauvaise volonté vraiment financière de la part des autorités. Et pour les copains demandeurs d'asile qui sont en procédure Dublin, ça arrive soit avant même la demande d'asile, ils commencent à mettre en place des trucs qui sont complètement pervers, ou ils vont même plus pouvoir faire la demande d'asile, même en Dublin, en France. Mais sinon, pour les autres, là je pense à 2 copains, un qui vivait à la maison, et l'autre qui vivait à Briançon depuis 6 mois, et ben là, ils ont eu une notification à aller en Prada. Soit ils y vont, soit ils y vont pas. S'ils y vont pas, ils perdent l'allocation qu'ils ont en tant que demandeurs d'asile, et ils perdent le droit à un examen futur de leur demande. Par contre, s'ils y vont, ils se retrouvent à partir à Vitrolles, à Gémenos, ou dans l'un des 50 hôtels qui a été ouvert par Adoma, qui a gagné l'appel d'offres, et qui est en fait une prison avec des assignations à résidence, avec une plaque chauffante pour 50 personnes, avec une personne qui fait le ménage, une personne qui est vigile, et basta. Globalement, c'est le service d'accueil des demandeurs d'asile, ça s'appelle programme d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile. C'est la dernière nouveauté d'institution française. On pourra en parler des heures, mais il y a vraiment besoin, moi je pense, de rendre visibles les situations, de donner la parole. Donc du coup, je vais laisser ma parole, et merci.
Salut tout le monde, je me nomme Kamara Aboubakar. Et je suis venu de Barbudja depuis, ça fait 2 semaines de cela, 2 semaines, je pense que 6 jours. Je suis venu avec Dantuma, qui est assis tout près. Nous sommes quittés à Torino, je pense que c'est il y a de cela 2 semaines, 6 jours bien sûr. On ne savait pas ce qui nous attendait à Barbudja. Donc nous sommes venus à Barbudja, nous sommes rentrés à 20h. De 20h, on a pris la route pour venir à Briançon. On était au nombre de 3. des Guinéens, bien sûr de la Guinée-Conakry et un Ivoirien. Nous sommes venus, on est venus jusqu'au niveau de la déviation sur la montagne. On ne savait pas s'il y avait la montagne devant nous. Et on ne connaissait pas la route, on s'est perdu. Donc on a suivi la route qui allait directement vers la vallée étroite. Et on a fait 7 heures de marche. Donc on était fatigués, tous fatigués, on ne savait pas s'il y avait encore une route qui continuait devant. Et on a décidé de se retourner là. On avait trop froid et il y avait même des glaces de neige qui étaient sur la montagne. Et donc on s'est retourné jusqu'au niveau du rond-point encore, le rond-point bien sûr qui mène vers Briançon. Donc arrivé là-bas, on a trouvé une dame qui était dans la voiture. Quand elle nous a vu, elle est sortie de la voiture. Elle nous a dit « Ah, salut !» On lui a répondu. Elle nous a dit « Ah, vous allez devoir avoir très froid. » On a dit « Vraiment, on a trop froid, trop même. » Donc elle nous a fait monter dans sa voiture. Et elle nous a donné des pulls. Elle a fait un bon café chaud pour nous. Nous sommes restés là-bas. Elle nous a demandé « Où est-ce que vous allez ?» On a dit « Ah, on veut aller en France. » Elle a dit « D'accord. » « Je vais tenter de vous envoyer en France. » Mais je sais que la police va vous attraper. On a dit, ah bon, elle me dit, oui, la police va vous attraper. Mais moi, je vais faire mon mieux pour ne pas que la police et la gendarmerie vous rattrape. On a dit, d'accord. Elle a dit qu'elle va laisser la porte de sa voiture, la porte de derrière, ouverte. Comme ça, sans condamner, quoi. Comme ça, quand on vient jusqu'au niveau du barrage, et quand elle parle avec la police, que nous allons ouvrir la porte, on va sortir en courant. On a dit d'accord. Et donc, on est resté dans la voiture, et nous avons pris, nous sommes montés, on a dépassé les deux tunnels. Bien sûr, devant la deuxième tunnel, elle s'est stoppée auprès d'une montagne, elle s'est recoulée et auprès d'une montagne par là. De l'autre côté, du côté gauche, bien sûr. Et tout d'un coup, on l'a entendu en train de parler avec la police. Elle disait, ah, j'ai des migrants dans ma voiture. Donc j'ai dit à mon frère, ah, on s'est fait piéger encore. Il m'a dit, oui, je vois. On a pris la porte de derrière de la voiture, c'était condamné. J'ai dit, ah oui, c'est vraiment un piège. Après, les policiers nous ont pris, c'était vers les 3h, 2h du matin. Il faisait encore trop froid, ils nous sont sortis, ils nous ont demandé nos noms, on a donné nos noms, tout. Après, ils nous ont pris pour nous arrêter, afin de nous déposer encore en Italie. Et on a perdu beaucoup de temps là-bas, et après, la police nous a encore envoyés directement en Italie. Et arrivé en Italie, il était presque 4h, 5h. Nous sommes restés là-bas quand la voiture s'est arrêtée au niveau de la frontière. La voiture s'est retournée. Et malgré qu'il ne faisait pas jour, mais on commençait à voir un peu clair la nature. Et donc, on a encore suivi la voiture. Quand la voiture est montée, il y avait une distance entre nous. On a fait semblant qu'on allait se retourner. Mais quand la voiture a laissé une grande distance entre nous, on a suivi la route. On a encore grimpé la montagne, trop fatigué. Et l'Ivoirien disait même qu'il faut se reposer. J'ai dit à mon ami, il faut faire tout pour ne pas que le jour tombe, qu'on n'a pas encore réussi à passer les deux tunnels. Il m'a dit d'accord. Et avec Dantouma, bien sûr. Donc, on est allé encore au niveau de la dixième tunnel. Et on s'est rencontré avec la police. Quand on s'est rencontré avec la police, ils se sont arrêtés, ils se sont dirigés vers nous en nous disant arrêtez-vous, on ne va pas vous faire du mal. J'ai dit non, ce n'est pas la peine encore de se retourner. Qu'est-ce qui fait plus mal que de prendre une personne encore, le faire retourner sur son pas. On a grimpé la montagne, on a pris la fuite. Et malheureusement, ils se sont pas, heureusement, ils ne se sont pas dirigés vers nous. Et ils se sont mis là-bas pendant 5 à 10 minutes sans bouger. Après, ils ont démarré leur voiture. Ils faisaient des va-et-vient, des va-et-vient. On est resté là-bas calé pendant 30 minutes. Et après, on a commencé de marcher sur les montagnes. C'était trop dur, mais on a efforcé, on s'est efforcé. Après, tout d'un coup, on a marché sur les montagnes de 6h jusqu'à 20h pour arriver à Briançon. Et on est arrivé à Briançon. On a demandé les gens et nous ont dirigés vers la CRS, une association aussi qui soutient les migrants. Donc nous sommes restés là-bas et le lendemain, nous sommes allés chez Marcel. Et c'est comme ça que ça s'est passé.
Avec les gouttes blues, la vie est un goût de foudre. Quand je suis pas cramé, j'ai le boule dans ce monde foutu. Je préférerais être le fou que le bouffon, quitte à me faire chasser. Je préférerais être le loup que le mouton. Malgré les doutes, on avance, on continue la route. On porte, on la déroute. On n'attend pas le jour où la roue tournera. La chance n'est pas avec nous, tant pis, on la détournera. Si parfois on tourne en rond, on lâchera pas, même à bout de bras.
Chez Marcel Abonçon, du coup, c'est un squat qu'on a ouvert au mois d'août. Ça s'appelle chez Marcel parce que le gars qui habitait là-bas s'appelait Marcel. Voilà, c'est bien de le dire, sinon ça peut faire un peu bizarre. Parce qu'on, enfin, en fait, on a ouvert ce squat à la base parce qu'il n'y avait pas assez de lieux d'accueil dans Briançon pour accueillir les personnes qui arrivent, qui passent la frontière. Et ça a été ouvert plus ou moins en même temps en fait, que la maison qui s'appelle la maison CRS, qui est la maison d'accueil officielle de Briançon, qui a été ouverte par la mairie. Mais en fait, ça, c'est une maison d'accueil d'urgence uniquement. Et nous, on s'est dit, s'il n'y a que ça, c'est... C'est pas possible en fait, parce que les personnes arrivent, elles sont accueillies 2-3 jours, après elles ont la pression de devoir partir. Et du coup, ça fait des situations horribles où en fait, il y a plein de gens qui partent surtout à Paris. Et voilà, et en fait, il y a des gens qui arrivent qui ont des possibilités de rejoindre la famille ou des amis ou quoi. Mais il y en a, ils arrivent, ils savent pas du tout quoi faire. Du coup, en fait, chez Marcel, c'est aussi un peu ça, c'est de capter un peu ces personnes qui n'ont pas du tout de plan, qu'elles puissent prendre plus de temps pour se reposer. En fait, il y a, enfin, peu importe le temps... qu'ils ont besoin de rester, des fois ça peut être un mois, voilà, et en fait on trouve des solutions ensemble, d'endroits où aller en essayant d'activer un peu les réseaux à droite à gauche de potes en fait, surtout un peu partout en France. Et du coup il y a aussi des gens qui restent avec lesquels on commence à faire les démarches de demande d'asile, surtout à Grenoble quoi. Et du coup voilà, ça, là maintenant ça fait en fait une quinzaine, ouais 15 personnes avec qui on a commencé à faire cette démarche de demande d'asile. Donc c'est quand même beaucoup parce que... Enfin, du coup, on fait de l'accompagnement aussi dans les démarches de demande d'asile avec des personnes, quoi. Voilà, et après, la vie là-bas, bah, en fait, c'est hyper chouette, déjà. Enfin, c'est hyper, hyper riche. On est pas mal les uns sur les autres aussi. Il y a des gens aussi avec des papiers qui habitent là-bas au quotidien. Et c'est des échanges hyper forts, hyper riches... Voilà, après c'est vrai que c'est dur parce que la situation, en fait, il y a plein de flics dans Briançon aussi qui tournent et qui peuvent arrêter les gens et les reconduire directement à la frontière en Italie. Donc pour les personnes qui n'ont pas du tout encore engagé de démarche, et donc c'est le cas de la plupart des gens chez Marcel, et ben ils peuvent, s'ils se font contrôler en ville, ils peuvent se faire ramener à la frontière directement. Donc du coup c'est un peu ce truc où c'est chouette et tout, mais c'est aussi un lieu d'enfermement en fait. Enfin, et tu le sens. Enfin, c'est dur, quoi, parce qu'en fait, les gens, ils peuvent pas bouger, quoi. Ils peuvent bouger que avec nous. Enfin, hop, dès qu'on doit aller chez le médecin ou dès qu'on doit faire n'importe quoi, en fait, du coup, bah, c'est que avec nous en voiture que ça se passe, quoi. Ça, c'est le côté de. C'est pas le squat qui est comme ça. Enfin, c'est le résultat de ce qui se passe à Briançon. Enfin, voilà.
Je suis à Serres dans les Hautes-Alpes et depuis cet été je suis très investie parce que c'est dans cette région, les Hautes-Alpes, que la plupart des personnes en exil traversent en fait ce département, et on s'est retrouvés face vraiment à des gens en détresse qui ont subi beaucoup de traumatismes, un long chemin, vraiment les histoires sont vraiment vraiment insupportables à entendre. Et dans l'idée L'idée de les accueillir mieux, parce qu'au début on les accueillait chez nous, mais on avait des pressions policières et puis pas du tout de, les moyens en fait, de faire ça individuellement. Donc on a décidé de répondre à, en ouvrant le squat, le Choum, et qui accueille entre 10 et 20 jeunes par semaine. On a en ce moment 4-5 arrivées par semaine. Donc, et après, nous, on essaye d'être un centre de transit qui permet aux jeunes d'atterrir, de comprendre là où ils sont, de leur expliquer les premières démarches administratives à faire, de les accompagner là-dedans. Mais après, qu'ils bougent de ce lieu, parce que vivre en squat, c'est pas une fin en soi. Et surtout, nous, on a plus maintenant, depuis le début, on a eu environ 80 personnes qui sont passées. Et actuellement, il y a une quinzaine de jeunes accueillis. C'est vrai que c'est très dur pour les procédures administratives de suivre tout le monde. Et c'est pour ça qu'on a un peu appelé à l'aide, dont le DIWA qui a superbement répondu. Merci encore. Et ça, le réseau s'agrandit et les relais viennent de plus en plus. Donc ça, c'est génial. Ça ne s'arrêtera pas. Donc il ne faut pas croire que c'est fini. Au contraire, là, je crois que ça commence. Qu'on a entamé une grande aventure et qu'il va falloir tenir bon. On ressent quand même des fois pas mal de fatigue, des fois des tensions aussi entre nous, bah, parce que c'est plus facile de se prendre la tête entre nous sur des broutilles plutôt que de déverser le pourquoi du comment de la colère, en fait, qui est vraiment là. Moi, je suis très en colère, en fait. Je suis très en colère contre la manière dont l'État, parce que c'est ça en fait la France, il y a l'État et la manière dont l'État accueille ces personnes. Et quand on voit comme ce soir en fait les populations qui sont dans un tout autre, dans une toute autre façon de voir ces gens-là et qui sont dans l'accueil, et nous c'est ça qu'on a envie de faire remonter en fait, que nos institutions répondent à des politiques qui ne nous ressemblent pas, en fait. On n'a pas envie de ça, on n'est pas comme ça, on ne pense pas cela. On n'est pas dans le fric, dans le quota, mais l'argent qu'on dépense, en fait, on est des humains. Et quand il y a d'autres humains qui sont en galère, voilà, il ne faut pas oublier qu'on a colonisé ces pays aussi depuis des milliers d'années et qu'à un moment donné, il fallait bien se rendre compte qu'on allait avoir le retour du bâton. Et là, je crois qu'on est... Après, ce n'est pas nouveau, hein, la migration. Mais là, je crois qu'on est vraiment dans une crise qui montre, bah ouais, à un moment, le retour de bâton, il est là. Alors, continuons à piller le monde entier. Et ben voilà ce qui se passe, en fait. Et là, à un moment, je crois qu'il va falloir tous qu'on dise non, mais un vrai et ferme non. Je sais pas ce qui va devenir dans les 10 prochaines années, mais on verra.
Nous, les migrants, les immigrés, les dénigrés, les haragas, on n'est pas venus pour vous narguer. On essaie juste de fuir la hagra, ouais, même si c'est vrai qu'on a pleuré. À vous offrir, à part nos cœurs. Non, je n'ai plus rien qu'une photo de famille. Pour le reste, j'ai du tout donné aux passeurs. Non, je viens pas chez Watt pour doigter Marianne ni pour vous mettre à poil. Pour vous mettre à poil. J'ai traversé les frontières, j'ai passé les douanes. C'est pas pour aller louer la porte de Jawad. Mais la vieille Europe, elle tire la gueule au bled. Ça n'arrête plus de marteler. Quand de rétention en guise d'accueil, elle construit des grands murs de barbelés.
Mode.
Nicolas.
Périne.
Maëva.
Rita.
Comment tu t'appelles ?
C'est Ibrahim.
Mon prénom c'est Jean-François.
Alcini.
Lucie.
Camille.
Madidi.
Mathilde.
Léa.
Aurélien.
Maria.
Aboubaka.
Louad.
Charlotte.
Younis.
Julien.
Eva.
Mohamed.
Nina.
Ibrahim.
Lucie.
Aurélien.
Mathilde.
Julien.
Aboubaka.
Mode.
Madidi.
Rita.
De haut en voyant qu'on retombe sur 10 chasses à l'homme. C'est absolument indignant, quoi, de retomber à des modes primitifs de traque d'humains avec des raisons qui ne se valent pas à aucun niveau.
De voir que les frontières, elles sont que dans un sens, ça je l'apprends pas, mais voilà, d'être concrètement face à ça et de voir les conditions dans lesquelles on traite d'autres humains, ça me fout bien les glandes.
Dans le DIWA, du coup, ça fait depuis le mois d'août qu'on s'organise pour venir un petit peu en soutien à ceux de Gap et Briançon, qui étaient un peu surchargés avec toutes les personnes qui arrivaient sur place et qui ne sont pas prises en charge. Et du coup, on a commencé avec une cantine hebdomadaire tous les jeudis à Gap et qu'on continue toujours. Et là, ce qu'on est plutôt en train de travailler en ce moment, c'est de mettre en place, de structurer un réseau d'accueil dans le Diwa, le Haut Diwa, pour pouvoir héberger, des gens sans solution. Donc du coup, ça fait à peu près un mois que les premières personnes hébergées sont arrivées ici. Donc on a pas mal déblayé pour voir au niveau administratif, au niveau du quotidien, au niveau de la formation, ce qui pouvait être fait ou pas. Après, ça dépend beaucoup des situations. Mais voilà, on essaie de déblayer tout ça, de se mettre en lien et en réseau, histoire que les gens qui hébergent ou qui ont envie d'héberger sachent qu'on est plusieurs et qu'on est en lien, quoi, que je sais pas, chacun dans son coin, faire face à des situations qui sont pas toujours simples et qui mobilisent beaucoup d'énergie aussi. Donc voilà, là en ce moment, l'enjeu, c'est un peu ça, c'est d'arriver à trouver des lieux pour héberger un maximum de monde.
On leur explique un peu les barrages à tel endroit, les tunnels c'est compliqué parce qu'ils les attendent avant les tunnels et après les tunnels. Voilà, on leur explique un peu tout l'état du col de l'échelle qui les attend en fait par rapport aux forces de l'ordre.
Et en fait c'est marrant parce qu'il y a 2 ans, je suis allée au Mexique en fait et j'ai rencontré, on était dans les communautés d'apatistes et du coup j'avais rencontré un gars assez âgé qui m'a dit « Ah mais c'est chouette que vous soyez là, mais en fait j'espère que vous n'allez pas rester. » Mais en mode, en fait on est content. Il faut profiter qu'on puisse se rencontrer, s'échanger, utiliser ces moyens-là. Vous, c'est plus facile pour vous de venir, c'est génial. Mais s'il vous plaît, restez pas là parce qu'en fait, vous avez plein de choses à faire chez vous, quoi. Et nous aussi, c'est une lutte locale ici. Et en fait, c'est hyper important que les luttes elles soient locales, mais qu'on se rencontre et qu'on établisse des liens. Ça, c'est génial.
En fait, je me suis investie là-dessus parce que je suis dans les plantes médicinales et comme on n'a aucun accès au médical, je me suis vite aperçue que la seule moyen de soigner en urgence, c'était avec mes petites plantes, alors qui font des belles choses. Je les remercie. Oui, bah moi je trouve ça hyper important que c'est pas possible de fermer les yeux sur cette situation-là qui en fait se produit à une échelle qui est juste invraisemblable, en fait, qu'il y a autant de personnes qui traversent des épreuves pas possibles pour arriver chez nous et qu'on les rejette et on les invisibilise et on les humilie à ce point-là et que du coup voilà, c'est vraiment urgent de prendre conscience et de faire prendre conscience aux gens de ce qui se passe, de visibiliser un peu ça et puis du coup de s'impliquer pour que oui, il y ait un minimum de solutions vivables pour eux en arrivant ici. Voilà.
Alors ouais, pour les maraudes d'hiver, il y a des gens qui se mobilisent vraiment là parce que ça n'empêche pas de passer. On pensait que le froid et la neige allaient peut-être stopper, mais ça n'est pas du tout le cas, parce que là, on a continué les maraudes la semaine dernière, il fait moins de 10 la nuit, et en fait, ils sont encore environ 10-15 à la gare de Bardonecchia à partir.
Et ce collectif, il a eu la chance d'avoir une maison, donc une maison qui est vide, qui appartient à 2 personnes du collectif, et on va en faire un lieu d'accueil, voire même plus largement un lieu de vie. Et l'idée est d'accueillir à la fois des exilés et des Diwa, des gens du coin, qui ont du mal à se loger au sein du village de Vercheny.
Donc on est aussi à la recherche de gens qui auraient du temps, que ce soit surtout en psychothérapie, psychologie, ce genre de choses, pour faire parler les jeunes.
Parce que c'est un cousin à moi qui m'a fait venir ici. Et là, dommage, lui, il n'a pas pu survivre en Libye. Parce que notre bateau a commencé à couler, on était très loin du gros bateau. Et là du coup, grâce à les radars, ils nous ont repérés, on nous a pris. Mais d'ici ils vont sauver des autres, nous on était les premiers à sauver, d'ici ils vont arriver à sauver les autres. Et c'était déjà trop tard, il y a eu plus de morts, on était 150, mais on s'est retrouvés dans le gros bateau à 80. Donc du coup, le reste, ils ont retrouvé seulement, je crois, 35 ans. Et le reste, ils n'ont pas pu sauver. Donc moi, c'est moi, mon frère qui m'a envoyé ici, mon cousin, et là du coup, il sait où il est heureux. Et là du coup, j'étais vraiment découragé de la vie. Et je suis rentré en Europe, j'ai pas fêté ma joie, parce que grâce à lui que je suis arrivé en Europe. Lui, il vit plus. Et là du coup, j'étais vraiment découragé de la vie. Je me suis dit, c'est là moi qui s'approche de moi. J'ai pas ma mère, j'ai pas mon frère. J'ai pas mon cousin, j'ai pas ma mère, j'ai pas mon père. Et là du coup, juste la personne, quoi. Mais j'arrive ici, je vois des bénévoles incroyables qui arrivent à nous soutenir, à écouter notre histoire. Mais moi, j'arrive pas toujours à expliquer mon histoire parce que j'ai vécu une histoire terrible en Libye. J'arrive pas toujours à expliquer. Mais grâce à mes pères, mon père qui est ici et ma mère qui est ici, qui est bénévole, et là du coup, j'arrivais un peu à expliquer, mais souvent j'arrive, la nuit, j'arrive pas à dormir. Mais j'aime pas trop expliquer mon histoire parce que je sais que chacun de nous, entre mes frères, tout le monde a eu une histoire terrible. Vraiment, on est vraiment dessus. Moi-même, je suis vraiment dessus. J'étais vraiment dessus de la vie. J'étais dérangé du monde. Parce que vraiment, quand je vois, j'arrive ici, je vois que des gens, ils écoutent mon histoire. Ils sont vraiment heureux de nous. Et là, ils nous disent, vous êtes, on va vous battre pour vous aider. Et là, du coup, c'est étonnant.
Hey, hey, Delhi, my new day.